Yannick Jadot, candidat des écologistes à l'élection présidentielle.
Quelle est votre position concernant les OGM, les pesticides et les perturbateurs endocriniens ?
Ça relève exactement de la même logique. Le projet que nous avons pour l'agriculture et l'alimentation, c'est une France zéro pesticide, qu'on évalue sur une bonne quinzaine d'années. Moi, j'ai négocié le Grenelle de l'environnement. On était normalement sur une réduction de 50% des IFT, hein, des traitements phyto. Malheureusement, en France, on a continué à augmenter, alors qu'on devait réduire de moitié, même si des exploitations agricoles ont parfaitement joué le jeu et réussissent parfaitement à être plus rentables que les autres en ayant réduit leurs pesticides. Donc, le sujet, c'est évidemment un sujet d'un modèle agricole moins sous perfusion chimique, avec plus de paysans, plus en lien évidemment avec les savoirs historiques, locaux de la terre, la question des semences et de l'adaptation, que ce soit au dérèglement climatique qu'on subit déjà, comme l'adaptation évidemment au terroir. Et c'est une agriculture qui donc respecte à la fois les sols, respecte l'environnement, avec beaucoup de paysans fiers de ce qu'ils font. Et puis en face, c'est évidemment des consommateurs, citoyens, qui arrêtent de polluer leur corps avec la nourriture, ou avec d'ailleurs les épandages quand on habite à côté de l'agriculture, ou même quand on habite en ville. Hein, on oublie trop souvent qu'une bonne partie de la pollution urbaine est liée à l'agriculture. Donc c'est un enjeu extraordinaire là aussi de redéfinir l'agriculture. Et moi, je veux utiliser les fonds de la politique agricole commune pour appuyer cette conversion agricole vers la durabilité, évidemment en allant toujours plus vers l'agriculture biologique. Mais c'est aussi remettre en lien sur les territoires les producteurs, les consommateurs, et refaire de l'alimentation dans notre pays, qui est quand même le pays de la bonne bouffe et de la convivialité, refaire de notre pays un pays où l'alimentation n'est plus suspecte, mais conviviale, gustative, et en plus, qui fait du bien à notre organisme. Donc, on continuera à interdire les perturbateurs endocriniens, c'est déjà le combat qu'on mène au Parlement européen, à aller vers zéro pesticide, avec sur le quinquennat 50% de réduction, évidemment pas d'OGM, et toutes les nouvelles, y compris les nouvelles familles d'OGM, et puis j'en oublie, non, je n'en oublie pas.
Alors justement, au niveau de la réglementation actuelle, est-ce qu'elle est satisfaisante ou est-ce qu'il faut étendre justement cette réglementation à d'autres produits chimiques notamment ?
Clairement, il faut sortir des pesticides chimiques. C'est le sujet. Enfin, je veux dire, il y a une connaissance extraordinaire qui est en train de se construire à l'échelle des exploitations agricoles, à l'échelle des fermes, dans la recherche scientifique. Et toute la priorité de la recherche doit aller là-dessus. Moi, je me fais régulièrement agresser sur la question des OGM. Oui, mais vous avez empêché l'INRA de faire de la recherche sur les OGM. La question, c'est pourquoi est-ce que l'INRA met autant d'argent et de chercheurs sur un problème plutôt que de mettre de l'argent et des chercheurs sur les solutions. Donc le sujet, c'est évidemment d'accélérer. Évidemment, nous, on se bat sur l'interdiction du glyphosate, du Roundup, les limitations rapides de tous les perturbateurs endocriniens. Mais là encore, c'est évidemment un enjeu énorme de santé, mais c'est aussi l'enjeu du vivre ensemble. C'est aussi la société dans laquelle on a envie de vivre. C'est pas simplement interdire une substance. C'est le modèle qu'il faut changer. Ce modèle des pesticides, il tire tout le monde vers le bas.
Alors justement, il a été beaucoup question du principe de précaution. Certains le remettent en cause. Vous, chez Europe Écologie Les Verts, j'imagine que c'est quelque chose d'important.
C'est quelque chose d'essentiel parce que le principe de précaution est à la fois un principe de recherche et un principe d'action. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a dans un monde où la science est tellement forte, ferme, alarmante sur tous les dégâts environnementaux, on a des responsables politiques qui, comme Trump aux États-Unis, mais avec moins de brutalité, mais avec les mêmes idées, veulent nier la réalité environnementale d'aujourd'hui. C'est-à-dire que comme on a un modèle de développement qui est deux fois plus gros que la planète, puisque on consomme deux fois plus que ce que la Terre peut fournir. Ça, accepter la réalité environnementale, accepter la finitude de la planète, c'est remettre profondément en cause ce modèle de développement et donc les intérêts liés à ce modèle de développement. Donc il y a, pour certains responsables politiques, simplement un déni de réalité pour ne pas avoir à modifier le modèle de développement. En faisant croire qu'avec un modèle de développement deux fois plus gros que la planète, on pourrait continuer à avoir une logique de partage. Quand on est dans ce truc-là, il y aura de moins en moins de partage. C'est évident, c'est logique. Donc le principe de précaution est toujours dire à quel point dérèglement climatique, extinction des espèces, maladies liées aux pollutions, épuisement des ressources, toutes ces analyses-là et toutes les politiques publiques qui doivent en découler découlent aussi du principe de précaution.
Autre sujet, depuis une dizaine d'années, on a vu émerger dans notre société des scandales sanitaires, beaucoup liés à l'industrie pharmaceutique. Comment faire justement pour prévenir ces scandales ?
On a un vrai souci de l'indépendance aujourd'hui des agences, des comités en charge de l'évaluation scientifique, que ce soit des autorisations sur les médicaments, comme on a tout à l'heure évoqué la question des OGM, on pourrait prendre le contrôle des émissions de l'automobile. En permanence, nous, on a toute une partie de celles et de ceux qui siègent dans ces comités, dans ces agences, qui ont partie prise avec les lobbies qu'ils sont censés évaluer. Donc on n'a pas simplement des formes de corruption ou de complaisance vis-à-vis des lobbies. Structurellement, il y a des conflits d'intérêts qui nous empêchent d'avancer. On le voit sur la question, on l'a vu dernièrement sur la question du glyphosate, on est toujours dans ces débats-là sur la question des OGM, on l'a vu sur la question, vous l'avez dit, des médicaments. Et le pire, c'est que ça, dans notre pays, qui est quand même un pays de la rationalité, qui est un pays de la recherche scientifique, on en vient dans l'opinion publique à contester même la science parce que une partie de ces résultats sont utilisés économiquement et avec les conflits d'intérêts. Regardez sur le débat qu'on a sur les vaccins. On est le pays de Pasteur et on est un des pays aujourd'hui où il y a le plus de défiance vis-à-vis du vaccin. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu les scandales du Mediator, c'est aussi parce qu'il y a eu les vaccins sur la H1N1, c'était tout ça, la grippe à H1N1. Et donc il y a un tel truc, on a l'impression que dès qu'on achète un médicament ou un vaccin, c'est pas pour se soigner, c'est pour engraisser une firme pharmaceutique. Et ça, c'est totalement malsain. Donc il faut assainir tous ces comités qui donnent des conseils.
Alors justement, comment, selon vous, faut-il financer la santé publique ?
Alors, comment on finance la santé publique ? Par la solidarité, toujours par la solidarité. Il y a celles et ceux qui sont les plus exposés aujourd'hui à des problèmes de santé sont aussi les plus vulnérables dans la société. Ce sont ceux qui souffrent le plus au travail du fait de l'intensification des tâches. Ce sont ceux qui vivent dans les quartiers les plus exposés à toutes les pollutions. Ce sont ceux qui consomment une alimentation la moins saine, qui vivent dans la précarité énergétique. Et ce n'est pas simplement avoir froid, la précarité énergétique. Hein. C'est des problèmes de santé pour les enfants, pour les adultes. Donc on a un vrai sujet du fait que la crise environnementale impacte et renforce la crise sociale, est un accélérateur de crise sociale. Et donc, forcément, il faut de la solidarité, toujours de la solidarité. Nous, dans notre programme, on est garant d'un grand service public de la santé. Ça veut dire, évidemment, le maintien de l'hôpital public. Ça veut dire le maintien d'hôpitaux, de maternités dans les territoires. Ça veut dire un maillage, le combat des déserts médicaux, avec des maisons de santé, avec des unités de base des premiers soins, qui ne sont pas forcément des médecins, mais qui peuvent traiter une partie des choses. Et évidemment, un grand travail à la fois de recherche et de prévention sur tous les enjeux de santé environnementale qu'on a évoqués, parce que nous n'aurions pas de déficit de santé si nous prévenions en amont les maladies plutôt que de les soigner.
Alors justement, comment organiser cette recherche scientifique ?
C'est beaucoup de recherche publique. Hein. Moi, je suis assez inquiet de la clochardisation d'une partie de la recherche publique française. On a d'excellents chercheurs, on a énormément de récompenses à l'échelle internationale, mais on le voit bien dans beaucoup de centres de recherche, les moyens sont devenus dramatiquement bas, avec l'impact qui est que les chercheurs vont voir ailleurs, vont chercher ailleurs. Et ça, sauf que c'est dramatique parce qu'on a une histoire, une tradition de la recherche française. Et donc, moi, je veux absolument que la recherche en France, qui est de 2,2% du PIB aujourd'hui, monte au moins à 3%, ce qui est le cas en Allemagne et ailleurs où la recherche se porte mieux.
Autre sujet qui a été beaucoup d'actualité ces derniers mois, quelle est votre position concernant la PMA et la GPA ?
La PMA pour toutes. La GPA est un sujet plus complexe. On a aujourd'hui de multiples façons de faire des enfants. Et quand je dis multiples, quand vous prenez tous les scénarios possibles, au bout d'un moment, ça fait pas mal. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. C'est toujours de l'amour, du bonheur, voilà. La GPA, si elle est payante, non. Si à un moment, il y a un couple qui ne peut vraiment pas faire avoir un enfant et que la sœur, par exemple, de la femme est prête à faire un enfant pour assurer le bonheur de ce couple, ça ne me pose pas trop de problèmes. Mais je crois qu'il faut vraiment, ce qu'il faut arriver dans notre pays où on hystérise ces sujets, c'est vraiment là où il faut mettre de la conférence de consensus, par exemple, hein, avec des auditions, avec faire confiance à l'intelligence collective. Quand on n'hystérise pas les débats et qu'on fait confiance à l'intelligence collective, généralement, il en sort le meilleur.
Plus largement, quelle place, selon vous, faut-il consacrer à la bioéthique dans la recherche scientifique ?
C'est typiquement un sujet où il faut remettre de la citoyenneté dans la recherche. Tout ce qui concerne évidemment la vie est à la fois essentiel parce que, voilà, y compris pour un écologiste, vous savez, là, au début, si vous êtes écolo, c'est pour défendre la vie, hein, la préserver le vivant et toutes les espèces vivantes, évidemment. Mais évidemment, dès qu'on touche à la vie, c'est compliqué. Hein, et donc, c'est vraiment là pour moi, c'est une question de méthode. S'il y a un endroit où il doit y avoir en permanence, je l'ai dit, des conférences de consensus, des comités citoyens qui pilotent et orientent les programmes de recherche, et que ce ne soit pas simplement des docteurs Folamour qui, forts de leur intelligence, se disent prêts à inventer peut-être parfois le meilleur et parfois le pire, et en lien avec des intérêts économiques, on a toujours le pire. Donc sur ces sciences-là, c'est évidemment une indépendance absolue vis-à-vis des intérêts économiques et pilotée par des comités de sages et des comités citoyens.